Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Direction la Nouvelle-Angleterre et la petite ville de Bethel, dans le sud-ouest du Connecticut. Une ville qui compte au moins deux célébrités, l'actrice Meg Ryan, mais avant elle, un homme qui a tout simplement inventé le show business au 19e siècle, Phineas Taylor Barnum, dit P.T. Barnum. Phineas voit le jour en 1810 dans une famille de fermiers. 1810, c'est le début de la grande aventure américaine, c'est aussi le temps de la débrouille. Et côté débrouille, Phineas Barnum s'en sort comme un chef. Il développe très jeune deux talents bien utiles pour se faire une place dans ce bas monde, le bagout et un sens inouï de la provocation. Il faut l'avouer, Phineas est un bonimenteur né, malin et drôle, et il a surtout une redoutable capacité à vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui à des prix parfaitement scandaleux. Et Phineas, qui a les idées larges, ne se prive également pas de faire frémir la bonne société très puritaine de Bethel, ce qui lui vaut vite quelques ennuis. Alors, à 24 ans, Barnum décide qu'il est temps de voir du pays. Nous sommes en 1834 et le voilà à New York, la ville de tous les possibles. Phineas a du culot et le sens du spectacle. Il n'hésite pas à tenter un premier coup qui choque, évidemment, vu d'aujourd'hui. P.T. Barnum réussit à racheter une très vieille esclave noire à un planteur du Kentucky. Comme Joyce Heath est une vieille femme aveugle, sourde et à moitié infirme, Barnum l'expose sur scène et promet à tous ceux qui l'entendent que Joyce Heath est âgée de 162 ans. Mieux, il jure ses grands dieux qu'elle est l'ancienne nourrice du premier président des États-Unis, George Washington en personne. C'est du grand n'importe quoi, mais ça marche. 12 heures par jour, la pauvre Joyce radote en répétant à quel point le petit George était mignon.
Mais il y a... Là, on a quoi ? Une tentative d'accent
de Mamselle Scarlett.
De vieille personne. De couleur noire.
Évidemment, tout ça est scandaleux aujourd'hui, mettons-nous à l'époque.
C'est sûr.
Mais il y a encore plus sordide. Ah. À la mort de Joyce Hess, Barnum vend des tickets pour assister à l'autopsie. Oh. À 50 cents la place, il y a 1500 amateurs pour assister au spectacle. Non seulement P.T. Barnum ne se pose pas de questions, mais il comprend qu'il a trouvé un filon. Le morbide, le bizarre et l'étrange ont toujours fasciné des foules. Mais il va se lancer dans cet univers à une échelle industrielle. En 1841, il rachète le Scudder's American Museum, qu'il transforme en Barnum's American Museum. Le lieu devient un gigantesque compound, autrement dit un spectacle permanent et composite de minstrels, de vaudevilles, d'exhibitions d'animaux vivants ou empaillés. Et bien sûr, de phénomènes. Vous savez, ces fameux freaks qui font sa réputation. La Barnum s'installe en pleine ville, mais il ne recule ni devant la dépense ni devant la réclame. Il faut dire qu'il a le don pour repérer tout ce que la planète compte de nains, de géants, d'albinos, de femmes à barbe, d'handicapés, de mutilés, d'éclopés. Le reste, bon, c'est du marketing avant la lettre. Quand on n'utilise pas la publicité, disait-il, quelque chose de terrible se produit. Rien. Barnum fait signer des contrats d'exclusivité à ses petits protégés. Il leur flanque des costumes, leur trouve un nom, les déguise et les lance sur la piste aux étoiles. Et tant pis, il faut parfois s'arranger avec la réalité. Le lilliputien Tom Pouce, le clou du spectacle, est un enfant de 6 ans. Son géant d'Islande est né à San Francisco. Et sa sirène des Fidji n'est qu'un horrible collage entre une queue de poisson et la moitié supérieure d'un pauvre orang-outan. Mais dans la lumière des projecteurs, ça fonctionne. Le Barnum's American Museum reçoit jusqu'à 15 000 visiteurs par jour, plus de 38 millions au cours de sa longue existence, c'est-à-dire plus que la population américaine de l'époque. Personne n'est dupe, mais tout le monde en redemande. Le reste des années 1850 est nettement plus difficile. Le musée des horreurs flambe deux fois, la deuxième pour de bon. Détail terrible, deux baleines que Barnum venait d'acheter meurent ébouillantées vivantes dans leur immense aquarium. P.T. Barnum est à deux doigts de la banqueroute, mais le phénix renaît 10 fois, 20 fois de ses cendres. Et en 1871, à 60 ans passés, il entre définitivement dans la légende du show business en se lançant dans le cirque, en fondant le P.T. Barnum's Great Circus Museum et Ménagerie, un immense chapiteau itinérant de 5000 places avec deux pistes juxtaposées qui cassent déjà tous les codes du cirque classique. 2 ans plus tard, son chapiteau de toile, de câbles et de bois offre désormais 10 000 places et les fameuses 3 pistes qui vont faire sa gloire. Il faut 80 wagons, 3 locomotives, 400 ouvriers pour monter, démonter, transporter sa caravane de l'étrange à travers tout le pays. Le slogan est d'une simplicité biblique. « The greatest show on earth », le plus grand spectacle sur Terre. Il y mélange tout. Ces chers monstres, bien sûr, qualifiés de prodiges de la nature et exhibés dans une tente particulière, mais aussi des équilibristes, des fauves, des acrobates, des clowns, des éléphants en grand nombre, des attractions sensationnelles et des inventions improbables. Le succès est ahurissant aux États-Unis et en Europe, où Barnum réussit l'un de ses coups les plus célèbres. En Angleterre, il achète le mammifère le plus populaire du monde, Jumbo, un éléphant d'Afrique de 6 tonnes 5 pour 4 mètres de haut. Évidemment, la tournée qu'il organise est à la hauteur. En 3 ans, 3 millions de spectateurs assistent ébahis à l'exhibition de Jumbo, présentée avec un éléphanteau que Barnum baptise Tom Pouce, en hommage à son lilliputien fétiche. Faut bien reconnaître que Barnum a un côté ambigu, Mathieu. Et pas seulement parce qu'on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Même de son vivant, on l'a accusé d'exploiter la misère du monde et de jouer sur la naïveté des gens. Et c'est vrai. Barnum était d'ailleurs le premier à le reconnaître. Et il a repris l'accusation dans son autobiographie qu'il a baptisé « Le prince des charlatans ». Mais il a aussi un côté plus positif. Barnum n'a pas seulement été un escroc de génie, il a révolutionné les usages du cirque avec cet immense chapiteau ovale aux mâts innombrables dont la forme porte toujours son nom. Et oui, oui, quand on dit « ils ont installé un gros Barnum », c'est à lui que cela fait référence. Et même s'il était cynique, même s'il adorait l'argent, beaucoup de témoignages montrent que P.T. Barnum aimait sincèrement sa bande de monstres et de laisser pour compte. Il les a montrés en spectacle, bien sûr. Il y avait beaucoup de souffrance derrière les paillettes, les projecteurs et la fumée. Mais il les a montrés, justement. Il leur a permis d'avoir un métier, de la stabilité et un contrat qui leur permettait de vivre à une époque où personne, mais absolument personne, ne leur proposait quoi que ce soit à ces freaks condamnés à vivre en marge de la société. Et la meilleure preuve de cette drôle de relation entre ces monstres et leur monsieur loyal, c'est que lorsque son musée a brûlé à Broadway, c'est en partie grâce à l'aide financière de ces fameux monstres qu'il a pu se refaire, à commencer par le lilliputien Tom Pouce qui ne l'a jamais lâché. Et puis, la fin de sa vie plaide pour lui, même si c'est encore à sa manière. Barnum s'est lancé en politique dans le Connecticut. Il a été élu maire de Bridgeport, une ville qu'il a fondée et qu'il a dotée d'un hôpital avant de monter tout le réseau électrique du comté en puisant dans sa fortune personnelle. Il a aussi fait un don énorme, 50 000 $, l'équivalent d'$1,5 million d'aujourd'hui, à une célèbre université américaine, la Tufts University. Au-delà des sommes qu'il a versées au profit des étudiants, il a aussi légué le corps empaillé de Jumbo, qui est resté la mascotte de l'université pendant des décennies, avant de brûler, elle aussi, décidément, dans un incendie. Et aujourd'hui encore, les anciens de la Tufts University s'appellent les Jumbos. Barnum est quant à lui mort chez lui, le 7 avril 1891, à 80 ans bien sonnés. Mais le show business moderne, dont il a largement dessiné les contours, lui, ne s'est jamais arrêté. C'est bien connu, Mathieu. The show must go on, le spectacle doit continuer.
Europe 1, historiquement vôtre.